Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Une radio que vous trouvez sur le 92.1 bande FM et www.radiocampus.be. Durant cette demi-heure, on reviendra bien évidemment en deuxième partie d'émission sur les critiques de la semaine avec deux coups de fil. Hein, Elisabeth qui est allée voir La Concordance des Temps du côté des Riches Clairs, un nouveau Dominique Breda, et Catherine qui est allée, elle, du côté des Galeries pour la Vérité de Florian Zeller. Et on reparlera aussi du festival Hors Piste du côté des Halles de Scarbeck. Mais pour l'heure, nous accueillons en studio Mathieu et Emmanuel pour le festival Furious Festival, un nouveau festival à découvrir du côté du théâtre de Poche. Bonjour messieurs.
Bonjour Nicolas.
Merci d'être avec nous. Un festival qui s'ouvre ce soir, si vous nous écoutez mercredi, qui se poursuivra en tout cas jusqu'au 8 mars. Pas mal de temps pour découvrir pas mal de choses, des lectures, des spectacles, des concerts, des projections de films. Pas mal de choses. Alors Mathieu, toi qui travailles pour le Poche en tant qu'assistant de production, chargé de diffusion également, pourquoi Furious ce festival ?
Eh bien tout simplement parce qu'on avait envie vraiment de faire la part belle à la jeune création. Voilà, parce qu'on a envie de montrer qu'en temps de crise, les jeunes sont toujours là, ils ont envie de créer, ils ont cette soif de plateau, cette soif de montrer leur travail. Et les opportunités sont parfois un peu trop souvent assez maigre. Du coup, on a vraiment voulu créer un mois dédié spécialement à la jeune création, leur laisser une carte blanche et du coup proposer aux spectateurs d'être relativement curieux et de découvrir de nouvelles manières de voir le théâtre.
Alors, jeune création, parfois très jeune, hein, des gens qui sortent tout juste de l'école et qui avaient des textes sous le bras à venir présenter et qu'ils avaient présentés dans le cadre des festivals Haute-Sasse, par exemple. Vous avez envie de leur donner une nouvelle chance pour qu'ils puissent se faire entendre ?
Voilà, c'est ça. Donc, le but aussi, c'est que ça leur serve à quelque chose, que ce soit une vitrine également pour eux. Nous, de notre côté, on invite toute une série de programmateurs et on espère évidemment que pour eux, ça débouchera sur quelque chose de plus professionnel encore, avec un avenir pour leurs projets, justement, qui seront présentés dans le Furious ou pour d'autres projets, que ce soit aux Poches ou ailleurs, évidemment.
Alors, tu parlais de jeunes créations, mais je vois quand même des noms comme Patrick Lerche, Brigitte Bailleux, Philippe Beheit, Jean-Baptiste Calam. C'est des gens qui ont déjà quand même quelques expériences derrière eux. Donc, les projets ne sont pas que de la jeune création comme...
Non, en fait, ce sont surtout les porteurs de projets. Hein,
oui. Donc, qui sont jeunes, quoi.
Qui sont plutôt jeunes et qui sortent des écoles. Ça fait soit l'année passée, soit il y a un an ou deux. Voilà, donc c'est vraiment plutôt les porteurs de projets.
Et je reviens à ma question de tout à l'heure. Furious, on sent que c'est du Poche, ça. Hein. Il y a de la colère, il y a de la revendication. Est-ce qu'il y a vraiment un fil rouge autour des thèmes ? C'est dans les formes ou dans les sujets, peut-être ?
Eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de fil rouge. C'est vraiment très diversifié. Posé, voilà, ben ça va aussi avec notre slogan de saison, Restons furieux. On a voulu continuer dans cette foulée-là et faire le Furious Festival. C'est-à-dire que c'est vraiment une énergie jeune. D'ailleurs, juste après punk rock, c'est tout à fait pertinent. Donc, c'est vraiment carte blanche, les gars, qui veut monter sur le plateau. Si vous êtes motivé, nous, en tout cas, il est dispo. On peut vous aider, on peut faire de la promo. Si vous êtes motivé et que vous avez envie de montrer votre travail à tout prix, et je dirais même, du coup, pour le coup, gratuitement, n'hésitez pas, appelez-nous, proposez-nous des projets. Et puis, voilà, on a monté ce Furious comme ça. Mais c'est sûr que c'est dans l'énergie Poche, complètement.
Au cœur de ce festival des lectures, 11 au total.
Puis il y aura aussi 8 spectacles, un concert d'Arthur Ribot aussi. Lui, c'est un peu le satellite du Furious Festival parce qu'il s'est incrusté. Il était prévu dans notre saison à la base. C'est le seul spectacle payant, du coup, parce que je tiens à le préciser aussi, tout le Furious Festival, en tout cas le reste à part Arthur Ribot, tout est gratuit. C'est entre très libre. Donc soyez vraiment curieux, n'hésitez pas, il y aura vraiment de belles choses à découvrir et beaucoup de sensations à partager.
Allez, on va piocher un petit peu dans le programme. Ça commence ce soir, donc comme je le disais, ce mercredi soir, et on pourra découvrir à 20h, juste après la conspiration des planches, vous courez aux poches pour aller découvrir Thomas Coumans, qui nous proposera un de ses textes, J'aurais voulu mourir naïf.
Bah écoutez, voilà, c'est vraiment un texte qui met en expérimentation, qu'il a envie justement de tester au théâtre de poche, donc on lui a dit bah, welcome évidemment.
Voilà. Il y a beaucoup de choses mystérieuses, hein, parfois quand on lit les descriptifs, ça reste vraiment dans l'abstrait, on espère que ce sera un petit peu plus concret quand on ira aller voir. Peut-être tu as envie de mettre en avant l'un ou l'autre spectacle ?
Ben c'est vrai que ce soir, on aura aussi Jean-Baptiste Polge avec Crawl Like a Bug. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un ovni théâtral également. Je ne vous fais pas le pitch parce qu'il faut vraiment venir le voir. Le pitch est assez tordu, mais franchement, ça mérite.
C'est une suite, hein, je crois, ou en tout cas, c'est un travail qui découle d'un précédent.
Exact, c'est ça. C'est a priori l'opposé de ce qu'il aura proposé à l'Outsas l'année passée. Mmh. Donc voilà, suspense... garantie. Mmh. Ensuite, c'est vrai que si on peut éventuellement parler de deux, trois autres projets du Furious, Arthur Ribot, c'est fait. Il y aura également Contrôle d'identité d'Ilias Métioui.
Oui, qui vient de passer par l'Espace Mag. Hein.
Voilà, qui vient de passer par l'Espace Mag, qui va questionner, qui va confronter le nationalisme et la recherche identitaire. Mmh. Voilà, c'est six artistes sur le plateau qui vont jouer de manière très frontale et qui vont vraiment se jouer de leurs propres clichés. Ensuite, peut-être le spectacle d'Arthur Houdard aussi. Mmh. Je pense qu'il est passé sur les ondes.
Mais oui, on l'avait reçu lors de la présentation de Nous sommes un tsunami, c'est ça ?
Bonjour, on est un tsunami.
Bonjour, on est un tsunami. Voilà, j'ai le titre exact en tête maintenant. Et il nous avait fait d'ailleurs une partie de sa lecture. Ici, c'est ce qu'il a présenté aussi à Outsas.
Ce sera celui-là. Voilà. Ce sera Bonjour, on est un tsunami.
Et là, c'est vraiment une espèce de road movie entre camarades, un petit peu déjanté, si je me rappelle bien du pitch. C'est plusieurs camarades qui prennent une de chevaux et qui s'en vont dans une drôle de balade.
C'est ça, tout à fait. Ils ont 18 ans, ils viennent de terminer leur réto, en gros. Ils ont envie de prendre leur envol, ils partent à l'aventure un peu pour la première fois tous ensemble. Et puis, ça raconte un peu l'exaltation du départ, les soirs d'été, les jolies filles et les grands banquets. On tombe amoureux, etc. Voilà les histoires de cœur. C'est un seul en scène interprété par Baptiste Tout-le-Monde. Vraiment, à mon avis, ce sera un très très bon spectacle. Voilà. Mm-hmm. Et ça, c'est les 5, 6 et 7 mars au Théâtre de Poche.
Emmanuel Descandido, tu es là pour nous présenter une lecture, justement. Alors, on s'était aussi rencontrés il y a quelques mois, peut-être quelques années, en tout cas pour parler d'un festival que tu avais aussi monté, un festival de lecture, autour de textes iraniens, avec ta compagnie MAPS.
Exactement.
Oui. Et ici, tu viens nous reproposer un de ces éléments, une de ces créations.
Exactement, on avait ressenti la nécessité viscérale de créer ce festival il y a 2 ans maintenant, et puis là, d'un festival à l'autre. C'est un festival dans lequel on se reconnaît. Le titre aussi du festival, moi, me fait marrer, Furious Festival. En même temps, j'ai l'impression qu'en ces temps d'un peu de morosité et de cynisme économique aussi, notamment dans le secteur culturel, on le voit bien avec le massacre légal du statut social d'artiste, on a comme ça des lieux qui nous proposent non pas de miauler gentiment, mais de rugir, et je crois que c'est pour ça que ça porte ce titre, un peu de course de monster truck ou de voiture de rallye de la Louvière. Enfin voilà, c'est cette énergie-là, et nous, on s'y sent bien dans cette énergie-là, avec l'envie de proposer en effet une minute de silence, donc de Mohamed Yaroubi, qui est un petit peu la perle qu'on a retenue des 8 textes qu'on avait déjà présentés au public il y a 2 ans, et qu'on avait envie de reproposer pour le faire découvrir à plus de spectateurs, mais également en effet aux professionnels, puisque le Furious Festival, c'est vraiment l'occasion d'avoir une visibilité et de construire le projet de la compagnie et la réalisation d'une pièce comme une minute de silence.
Tu parles de la réalisation d'une pièce, ça veut dire qu'il y a projet à concrétisation de cette pièce aussi, au-delà de la lecture, j'ai envie de dire.
Tout à fait, on se posait la question avant l'émission de pourquoi les lectures ou bien à quoi ça sert une lecture. Ça dépend.
Celle-ci, à quoi elle sert ?
Celle-ci, à quoi elle sert ? Celle-ci, c'est vraiment, on pourrait dire, une étape de travail. une étape sur, la, sur le chemin de la création du spectacle, tout simplement. Ça permet d'avoir, d'avoir des retours des spectateurs, de voir ce qu'ils en pensent, où est-ce que ça les touche, qu'est-ce que ça provoque en eux. Nous, de nous positionner là-dessus dans notre travail à venir, et puis tout simplement de convaincre des professionnels, des programmateurs, dont nos hôtes, évidemment, du poche, et puis de, voilà, de mettre ces chemins de réalisation de production de spectacles en place.
Est-ce qu'aussi la lecture en objet scénique en tant que tel est importante aussi pour mettre en avant peut-être plus particulièrement le texte?
Alors moi, la lecture, j'en fais souvent, je trouve ça génial. D'une lecture à l'autre, c'est différent. Je fais partie aussi du groupe de lecture du poche. Le poche propose régulièrement des lectures. Dans ce cas-là, dans les cas des lectures de poche, c'est plutôt un défi, une espèce de jeu où on se dit, bon, ben, en deux jours, on aborde un texte, on rentre dedans comme on peut, et puis avec générosité, on propose une représentation texte en main de cette pièce, et on voit ce qui se passe, quoi. Ici, c'est assez différent. On est déjà, c'est Philippe Beheit, donc de la compagnie MAPS, qui met cette lecture en espace. Alors, mise en espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on a déjà avancé sur le travail de mise en scène, de direction d'acteur. On propose déjà un début de scénographie. On a le texte en main, mais on donne déjà à sentir, à avoir quelque chose du texte.
Je vois que toi, tu es chargé de la dramaturgie. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cette répartition des rôles avec Philippe?
Tout à fait. Donc, la compagnie MAPS, c'est Philippe Beheit, moi-même et Stéphanie Manger. On est tous les trois auteurs, metteurs en scène, comédiens. Dans l'équipe pour cette lecture, on retrouvera également Naïma Triboulet, Sarah Amari et Jamila Drissi, qu'on avait vu dans les monologues voilés, notamment aux poches. Là, bon, bah, on se répartit des rôles dans la compagnie. Moi, la dramaturgie, c'est quoi? C'est essayer d'un petit peu décortiquer le texte, sa narration. Mais ça vient aussi tout simplement du fait que moi, j'ai fait trois voyages en Iran, en 2008, 2009 et en 2012, que je suis parti à la rencontre des auteurs, mais aussi à la découverte de la société iranienne, et que donc, fort de cette expérience particulière, ça me permet aussi de ramener un petit peu ça au sein de la compagnie et de pouvoir décortiquer la pièce et d'expliquer ce qui est plus proprement iranien et d'essayer aussi du coup de l'ouvrir aux spectateurs et de l'universaliser, etc.
Donc, et aussi donner des pistes au lecteur ou à la distribution si le spectacle est monté sur scène.
Exactement, c'est la particularité de Une minute de silence, c'est un texte iranien, oui. En même temps, pour les amateurs de cinéma, c'est, je dirais, entre Goodbye Lenin et Une séparation. Parce qu'Une minute de silence, c'est deux histoires parallèles. C'est d'une part celle d'une jeune fille qui se réveille au bout de quelques années de coma. Et c'est ça c'est le côté Goodbye Lenin, qui se réveille et tout a changé autour d'elle. La famille, les amis, mais également la société, puisqu'elle se réveille en pleine république islamique, alors qu'avant c'était une royauté, mais donc avec les modifications des droits des citoyens, avec les femmes qui doivent sortir voilées, enfin avec tout ce qu'on peut imaginer de la république islamique. Et puis elle va se rendormir encore quelques années et tout change chaque fois qu'elle se réveille. Et puis parallèlement, on a l'histoire de Sohrab, qui est un écrivain qui est menacé de mort pour avoir signé une pétition pour la liberté d'expression.
Et ça se passe au même moment?
Alors, ça, c'est ce qu'on découvre peu au fur et à mesure de la pièce. Qu'est-ce qui se tisse entre ces deux histoires? Mais non, ça se passe, puisque la révolution qui a mis en place le gouvernement islamique est de 79. L'écrivain parle dans fin des années 80, et l'auteur, Mohamed Yaroubi, parle en fait d'une période qui a malheureusement réellement existé, où il y a eu une vague d'assassinats contre des intellectuels qui avaient effectivement signé un document, une lettre ouverte pour la liberté d'expression. Donc il surfe sur des faits divers, des faits historiques, mais je dois le dire avec beaucoup aussi de tendresse et d'humour, ce qui fait toute la qualité de son écriture.
Tu nous as amené quelques extraits de ce spectacle, on va t'écouter dans quelques instants. Un premier extrait, peut-être nous le resituer pour qu'on puisse s'imaginer, s'imprégner fortement du texte.
Bien sûr. Donc, je disais, ces deux histoires parallèles, j'avais envie de lire deux petits extraits très différents, deux monologues, puisque je suis seul. On arrive déjà à la fin de la pièce, c'est Sohrab qui parle, donc cet écrivain menacé de mort, et qui essaye désespérément de rédiger une pièce de théâtre, qui a de plus en plus de mal, parce qu'il n'arrête pas de recevoir des coups de fil, donc des menaces de mort, et son épouse a dû quitter la maison. Et donc c'est là qu'on en est, il parle face caméra, il a décidé d'enregistrer une sorte de témoignage, Et c'est là que ça commence. Donc ce rap est seul sur scène, une caméra est pointée sur lui. La semaine dernière, deux écrivains ont été assassinés. Ils faisaient tous les deux partie des 134 écrivains qui ont rédigé une lettre ouverte en faveur de la liberté d'expression. Moi aussi, je suis l'un de ces 134 signataires de cette lettre. Peut-être que l'un de ces jours, moi aussi je serai tué. Je ne parviens plus ni à écrire ni à lire. Je parviens seulement encore à parler. J'ai envoyé mon épouse et ma fille chez mes parents à la campagne. J'avais peur qu'il leur arrive un malheur si elles restaient ici. Chaque jour, lorsque je me rends au travail, l'inquiétude me tourmente. Et lorsque je suis à la maison, si quelqu'un sonne, je n'ose pas ouvrir la porte. Je vis à présent dans une situation où j'ai peur de ce qui pourrait advenir l'heure suivante. Dans ma vie, je n'ai ni tué, ni volé, ni dupé qui que ce soit. L'écriture est la seule raison pour laquelle je suis en danger de mort. Des inconnus téléphonent sans cesse chez moi et menacent de me tuer. Je m'interroge. Pourquoi ne pas répondre à ces menaces en présentant mes excuses, ou pourquoi ne pas fuir le pays? Certainement pas parce que je ne crains pas la mort. Je ne suis qu'un homme comme les autres, un homme avec toutes ses peurs et ses angoisses, et je n'ai pas honte de dire que j'ai peur. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas jouer au héros. La vérité, c'est que je ne veux pas mourir. J'ai toujours souhaité pouvoir un jour m'endormir et dormir, dormir, dormir tellement qu'au final, je me réveillerai dans un monde, par exemple 100 ou 200 ans plus tard, où tout serait sans aucun doute différent.
Premier extrait donc de cette minute de silence de Mohamed Yaroubi, lu par Emmanuel Descandido. Dans le deuxième extrait que tu nous proposes, on est toujours avec lui ou non?
On est avec Jimmy.
Ah, pardon.
Shiva est donc
celle qui se réveille, c'est commun.
Okay. Et Jimmy est en quelque sorte son beau-frère, qui est un chauffeur de taxi. Les chauffeurs de taxi sont très importants en Iran puisqu'ils voient passer toute la société au bord de leur taxi. Et donc lui parle souvent par métaphore et en racontant des petites histoires, il parle aussi de la société, comme le fait même Mohamed Yaroubi. Donc voilà un extrait très très différent. Donc il parle des animaux et des insectes. Il parle d'un insecte qui s'appelle l'épirus. Il dit oui, son nom est épirus. Lorsque l'épirus mâle a, comme on dit, envie de faire l'amour, il ne s'approche pas directement de la femelle. Il prépare d'abord soigneusement une voie de sortie avant de se diriger, frissonnant de peur et de désir, vers Madame Épirus. Il arrive parfois que Madame Épirus ne laisse même pas la chance à monsieur de faire sa chose, qu'elle l'a déjà engloutie. Mais si Madame se trouve elle aussi être d'humeur amoureuse, elle se met à minauder, elle joue la pudique et se laisse aller à toutes sortes de coquetteries. Et le mâle, stupide, ivre de désir, la suit partout jusqu'à ce qu'elle se soumette enfin. Ils frottent affectueusement leurs antennes et roucoulent tendrement. Mais dès que la chose est faite, la femelle, plus forte, se jette sur le mâle et le dévore délicatement. Évidemment, si monsieur est adroit, il se retire rapidement et grâce à la voie de sortie qu'il avait préparée pour se sauver, il déguerpit. Mais bon, quelques jours plus tard, lorsqu'il ressent son irréductible envie le reprendre, c'est encore la même histoire. Les mantes religieuses femelles sont plus épouvantables encore. Ces satanées bestioles peuvent s'accoupler à 7 mâles, l'un à la suite de l'autre, et tous les manger à tour de rôle. Quelquefois, le mâle est encore en train de copuler alors que la femelle a déjà commencé à le dévorer. La condition des insectes mâles est vraiment désolante. Je rends 1000 fois grâce à Dieu que je ne sois pas un insecte.
Et on comprend bien en tout cas comment la métaphore peut aider à faire passer des messages ou la métaphore et d'autres choses comme on en a parlé. Donc c'est une minute de silence, ce sera donc à entendre, à découvrir sur la scène du Poche le samedi 1er mars à 21h30, mise en lecture de Philippe Beuheil, dramaturgie d'Emmanuel Descandido et distribution variée. Entrée libre, on l'a dit, à ce Furious Festival, ça commence ce mercredi soir, c'est jusqu'au 8 mars, pour les réservations 02 649 17 27.
Yes.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Et on rappelle donc www.poche.be pour toutes les informations. Un peu de musique et on revient juste après avec les critiques de la semaine.
La constellation.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Tu es allé voir pour nous La Concordance des temps de Dominique Bréda. Ça se joue au Richclair, le retour de Dominique Bréda avec une production originale.
Avec une production originale qui commence de manière originale par une leçon de grammaire, suivie par une ado un peu revêche incarné par Julie Duroisin. Donc, on l'avait déjà vu dans Emma, hein, la grande révélation de Dominique Preda à l'époque. Et une autre ado, toute jeune, jusqu'à une vingtaine d'années, mais qui est côté Sainte-Mitouche. Alors, on a ce duo-là de jeunesse. Et puis, arrive très rapidement la mère de l'une et la tante. Et on a une opposition, et alors on se demande, tiens, est-ce que la concordance des temps, ce serait cette jeunesse et
cette rencontre des générations, oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ces deux générations qui s'affrontent. Et puis très rapidement, ça se révèle être plutôt un road movie, alors un road movie à l'américaine. Donc on est parti pour une épopée et on s'embarque en voiture vers San Diego sur une route qu'on imagine assez vite déserte. Jusqu'au moment où arrive l'élément déclencheur d'une catastrophe. C'est un cinquième personnage qui est Joe et qui est armé d'un gun. Donc on est dans un road movie théâtral. Voilà. Bon, c'est évidemment fait pour être drôle. C'est des personnages bien typés, bien sûr, interprétés par des comédiennes qui savent y faire.
Et on voit déjà la voiture sur scène, elle est drôle, elle aussi.
La voiture est drôle. Bah, en fait, la particularité du décor, c'est qu'il est très sommaire et qu'il est en carton. Alors effectivement, il y a des petites surprises à ce niveau-là. Et on est dans une voiture un petit peu cartoonesque. Et c'est vrai que tout ce spectacle a un côté un peu BD comme ça. On est surtout dans des types. Et bien sûr, ça fonctionne là-dessus parce que l'ado et les revêches, l'hôtel de Sainte-Mitouche, il y a la mère Courage. Et puis, il y a la grande dépressive. Et puis, arrive celle qui va mettre le feu aux poudres au sens propre du terme, puisqu'elle est armée. Et on a des petits rebondissements pareils. Malheureusement, moi, je suis un peu restée sur le quai, sur cette route, parce que, justement, les personnages sont typés, mais j'ai pas senti l'épaisseur, j'ai pas senti un vrai personnage derrière. Et très rapidement, je me suis ennuyée dans ce qui est, il faut bien le dire, un spectacle drôle, parce qu'on y retrouve la plume et l'efficacité, surtout, de Dominique Preda. Donc c'est vraiment un spectacle qui va convenir à ceux qui attendent du théâtre en divertissement sans plus.
Okay.
Donc, c'est pas mon cas, je suis restée un peu sur la route.
De cette rencontre de génération, finalement, peu de substance.
Ça m'a manqué en tout cas de nourrir. Il y avait dans New York la proposition précédente, une des propositions précédentes de Dominique Preda, quelque chose sur le père et le fils, mais il y avait quelque chose de sensible qui passait, il y avait une couche en dessous que je n'ai pas senti dans ce spectacle-là.
Ok. Et est-ce qu'au niveau des comédiennes, on sent que ça parle des femmes aussi? Est-ce qu'il y a un aspect particulier? Parce que c'est deux jeunes filles, c'est deux femmes d'âge mûr.
De quinca, hein, oui. L'âge mûr, qu'est-ce que c'est l'âge mûr? Ben, oui, ça parle de la femme sans en parler. Moi, je ne suis pas, j'ai pas réussi à m'identifier plus que ça, parce qu'on est confronté à des types. Alors, ça donne une interprétation type qui est savoureuse un moment. Mais pour moi, ça n'a pas tenu la route tout le temps. Ça dépend, encore une fois, je pense, de ce qu'on attend d'une soirée au théâtre, évidemment, et sa pratique théâtrale. C'est sûr que tu vas peu au théâtre, bien, on va peut-être pouvoir se nourrir de ce jeu qui était... Il n'y a rien à redire au niveau de l'interprétation. Chacune est bien dans son type et c'est efficace.
Ok, ben merci Elisabeth. On comprendra donc que cette concordance des temps t'aura convaincu à moitié. On retrouve de toute façon la plume de Dominique Breda.
Elle est là et c'est vrai que c'est toujours un plaisir, mais est-ce que c'est un plaisir suffisant?
Voilà, la question est posée. C'est à voir jusqu'à ce samedi 15 février du côté des Riches Clairs, www.lesrichesclairs.be. Merci Elisabeth, à la semaine prochaine.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Et après Elisabeth, deuxième coup de fil. Bonjour Catherine. Merci d'être avec nous dans cette conspiration des planches pour continuer notre petite série de critiques de la semaine. Tu es allé du côté des galeries qui nous propose une pièce d'un auteur parisien très en vue, Florian Zeller, La vérité, et qui dit vérité, j'imagine qu'on va parler de mensonge aussi.
Oui, alors quand on voit le pitch de La vérité de Florian Zeller, on se dit qu'une fois encore, on est dans le même argument archi-connu. Du mari qui trompe sa femme avec l'épouse de son meilleur ami. Je crois qu'on ne peut pas faire plus convenu comme point de départ d'un vaudeville, sauf que Florian Zeller a la bonne idée de creuser jusqu'à l'os, vraiment d'aller au bout de cette mécanique, de la tourner dans tous les sens, ce qui fait que finalement, on ne sait plus très bien où sont les mensonges et les aveux dans ce quatuor.
Deux couples, hein.
Deux couples, oui, qui sont joués d'ailleurs par une très bonne distribution. Pierre Pigeolet qui va être un petit peu le dindon de la farce, celui qui croyait prendre et puis finalement qui se fait prendre.
Il est en couple avec qui, lui ?
Alors, il est en couple avec Marie-Paul Kuhn, qui joue la fausse naïve, parce que finalement, on va se rendre compte qu'elle aussi a des choses à cacher. Donc, Pierre Pigeolet trompe Marie-Paul Kuhn avec Marie-Hélène Remacle, qui, elle, est en couple normalement avec Michel Poncelet. Et finalement, voilà. Je peux pas vous en dire trop, parce qu'évidemment, il y a un suspense dans tout ça. Juste vous dire peut-être que c'est très bien mis en scène, c'est impeccablement joué. C'est dynamisé par un décor assez malin qui est installé sur un plateau rotatif. Donc un rond comme ça, divisé en plusieurs cellules. Alors ça fait défiler le salon de l'amant, la chambre d'hôtel de la maîtresse, les vestiaires du court de tennis où... vont s'affronter les deux gars qui sont censés être meilleurs amis, mais qui finalement se font quelques coups bas dans le dos. Le cabinet de la maîtresse qui est oculiste. Enfin voilà, et donc le fait que ça tourne très vite comme ça, ça donne un souffle pas mal à cette parodie de boulevard finalement, parce qu'on part de... On part d'un point de départ connu, mais on va un petit peu plus loin que les habituels Fedot et compagnie.
C'est Patrice Main qui met en scène, hein, Patrice Main qu'on retrouve ici, c'est je crois sa deuxième création de la saison. Et au décor et costume, le duo terrible Charlie Kleinerman et Thibaut de Coster, qu'on voit aussi beaucoup du côté du parc. En fait, plus que l'adultère, c'est vraiment l'idée du mensonge et de la vérité qui surgit un petit peu dans cette pièce.
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de se demander est-ce que la vérité est toujours bonne à dire. Alors, il y a Pierre Pigeolet qui se donne bonne conscience en expliquant que d'après lui, dire la vérité, c'est pas toujours bien parce que ça fait du mal. Argument assez pratique. Et puis, on se rend compte que finalement, tout le monde a ses petits arrangements avec la vérité nous-mêmes, hein, si on est... vraiment honnête avec soi-même, on sait que voilà, on aime bien jouer un petit peu avec la vérité quand ça nous arrange. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça parle à beaucoup de monde. On n'a pas besoin d'avoir d'amant ni de maîtresse pour s'identifier à ce quatuor qui se dépatouille comme il peut dans son quotidien. Voilà, un peu évidemment, ça reste assez des préoccupations très bourgeoises, hein, très quinca.
Oui.
Mais c'est divertissant parce que c'est rondement mené.
Une bonne pièce donc du côté des galeries, La Vérité. Florian Zeller, hein, on parle beaucoup de lui, hein, à Paris notamment, il est très très en vue, romancier également. C'est à voir jusqu'au 2 mars, si je ne m'abuse, et c'est du côté du Théâtre Royal des Galeries, www.trg.be. On en a parlé rapidement la semaine dernière, Catherine, c'est le festival Hors Piste qui se déroule du côté des Halles de Schaerbeek, des numéros de cirque tout à fait impressionnants, et tu voulais revenir un peu plus en détail sur Capillotracté, un duo finlandais féminin.
Tout à fait. Alors Capillotracté, ce sont deux Finlandaises qui au départ viennent du trapèze et du fil et qui se sont mises ensemble pour aller fouiller une vieille tradition, une vieille discipline qui nous vient de Chine où on fait des acrobaties suspendues dans les airs par sa chevelure. Donc, à voir comme ça, ça fait un peu mal au début, je vous avoue. On les voit, les cheveux tirés, donc elles ont des très longs cheveux qu'elles ont réunis, rassemblés en une queue qui tient comme ça dans une boucle.
Oui.
Et elles sont suspendues comme ça par toute leur chevelure, avec les traits hyper tirés. Alors, elles m'ont expliqué en coulisses que ça a mis quelques mois, évidemment, à maîtriser cette technique, à dépasser la douleur, parce que quand même, ça fait mal, à apprendre que, par exemple, il faut mouiller ses cheveux parce que les cheveux mouillés sont moins cassants que les cheveux secs.
Okay.
Des choses passionnantes comme ça, sauf qu'on dépasse très vite cette prouesse.
Puisqu'il y a la poétique quand même qui est là et qui doit venir.
Il y a la poétique et je dirais presque la politique parce que c'est très féministe.
Oui.
Semblant de rien, en parlant du cheveu, on parle de beaucoup de choses.
Mmh.
On parle de la femme, évidemment. Alors, il y a des portraits, des tableaux qui sont inspirés notamment de Frida Kahlo, qui a elle-même mis en scène ses cheveux, beaucoup, hein, dans sa féminité. Alors, on reprend ça, et puis il y a des scènes très rock'n'roll, C'est très musical d'ailleurs. On y retrouve des bouts de la comédie musicale Hair, évidemment.
Ah oui, bah oui, tiens, ça tombe bien ça.
Ouais, et puis on traverse aussi les modes, parce que le cheveu dit beaucoup des classes sociales aussi, avec les skinheads et leur crâne rasé, symbole d'une certaine dureté, ou alors les femmes à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui avaient trahi leur patrie en s'acoquinant avec les Allemands et qui finissaient le crâne rasé. Finalement, le cheveu, ça dit beaucoup de choses et ça se retrouve dans ce spectacle capillotracté, dans un spectacle vraiment très décalé, très drôle et qui donne une bonne idée de ce que c'est que le nouveau cirque aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que plus encore qu'en danse contemporaine, c'est là que ça bouge pour le moment. Et en Belgique, on a beaucoup de chance parce qu'on est une espèce de plateforme du cirque contemporain où on voit des choses exceptionnelles.
Avec de bonnes écoles et aussi de lieux qui se bougent pour ça, pour nous faire venir des jolies pièces, quoi.
Oui, on a l'ESAC qui est une des meilleures écoles de cirque au monde, avec des artistes qui viennent de tous les pays, mais qui trouvent à Bruxelles un tremplin assez formidable. Donc, pour découvrir le nouveau cirque, il faut absolument aller hors piste. Hein, ça dure encore jusque-là, mi-mars, il me semble.
Ça va se croiser avec un autre festival, le festival Up. On y reviendra d'ailleurs dans une prochaine émission. On a vu quelques spectacles. Mais en tout cas, pour Capillotracté, rendez-vous ce vendredi 14 et ce samedi 15 février à 21h au hall de Scarbeck, www.hall.be. Merci Catherine.
Merci à toi.
Et on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour d'autres critiques dans la conspiration des planches. On récapitule avec évidemment le Furious Festival qui commence ce soir du côté du Théâtre de Poche. Lecture et spectacle en profusion de la jeune création, mais aussi des confirmés. Et du côté des Riches Clairs, c'est Dominique Breda qui est de retour avec la concordance des temps. La vérité se joue du côté des galeries également, de Florian Zeller, et enfin du cirque tiré par les cheveux, c'est au hall de Scarbeck. Toutes les informations sur notre site www.radiocampus.be et le podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be. À la semaine prochaine. La conspiración.